L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Et oui, c'est FM+, qui produit cette fameuse émission L'Afrique dans tous ses états, produite aussi et réalisée par Marie-Claude Siakezak. Bonjour.
Bonjour Guylaine, sans qui je ne serais pas là.
Voilà, c'est comme ça qu'on s'encourage ici sur FM+, on est les meilleurs.
Ah, je suis tellement contente de la retrouver. Ça me rassure.
En régie, William, bien sûr. Et puis à notre table, Marie-Claude, Cyprien Ouedraogo. Bonjour, voilà. Cyprien.
Oui, bonjour.
Ça va, ça commence à tomber le stress là?
Oui, tout doucement.
Oh, tout doucement.
Ça va se faire. Hein.
Ça va se faire. Alors Marie-Claude, un nouvel invité, pas des moindres.
Voilà, un nouvel invité que je projetais de recevoir depuis fort longtemps, mais la situation pandémique et tout ça a fait que on fait pas ce qu'on veut en ce moment. Déjà, on fait jamais ce qu'on veut dans la vie, mais alors là, ça a été le pompon du pompon.
J'en doute, hein, nous reviendrons pas là-dessus, mais j'en doute avec vous Marie-Claude.
Mais ouf, ça y est, j'ai réussi à... Bon, alors j'ai pas pris de hameçon, j'ai rien pris, hein, mais on a réussi à convenir d'un rendez-vous, et le voilà aujourd'hui. Et sa présence pour moi est importante. Il vous expliquera pourquoi. D'abord, il vous dira qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie au Burkina, ce qu'il est venu faire à Montpellier. Et c'est passionnant. Enfin, il est venu faire une recherche qui, je pense, va passionner tout le monde, à commencer par nous, hein, Glenn.
Nous, on est à voilà. Ça y est, on a même pris des rendez-vous plus tard.
Et donc, je vais demander à Cyprien de Ouedraogo de se présenter.
Merci, je suis très ravi d'être là.
Nous après, l'espérons fort.
Tu vas aller, hein? Après plusieurs contacts et tout, bon voilà.
Oui, on a échangé, contacté, puis chaque fois, boum, il y avait un court-circuit, quoi. Il y avait une situation qui faisait que ça ne pouvait pas se faire.
Alors, qui voilà. êtes-vous, Cyprien?
Je suis Cyprien Ouedraogo. Sixième d'une famille de 9 enfants.
C'est déjà pas mal.
Dans 5 filles, 4 garçons. Je suis originaire du Burkina Faso, comme vous le savez, plus particulièrement du centre-ouest, province du Boulkiamdé. Je suis issu d'un département, d'un petit village qui se nomme Siglé, et mon village lui-même, c'est Mankoula. Alors, pour la petite histoire... Après mon école primaire chez nous, à 5 km, il fallait le faire.
Oui.
À pied, matin et soir.
Pour le faire.
Et voilà.
Ça motive, hein, je veux dire, les gamins qui font ça, en principe, ils ne vont pas pour rien à l'école, parce qu'il faut, faut amortir les 5 km quand même se taper. Quoi.
Et alors, j'ai postulé pour entrer au petit séminaire, pour la formation en vue de devenir prêtre.
Le petit séminaire était à quel endroit, lui?
À Koudougou.
À Koudougou.
À 75 km, en fait.
La ville des rebelles, mais comme vous pouvez voir, il y a aussi un séminaire. Donc.
Bah, de bons rebelles, ça, c'est la bonne rébellion.
Oui, la bonne rébellion, en plus, vraiment, la rébellion, vraiment.
Pour la bonne cause.
Voilà, pour la bonne cause.
Et ce séminaire, il est tenu par quel missionnaire, quel...
Les prêtres diocésains.
Des prêtres diocésains.
Voilà. Les prêtres diocésains. Et j'y suis allé en 93 pour la sixième, le cycle normal de la sixième jusqu'en troisième en 98. Cette date vous dit quelque chose?
Oui, fatidique, oui, j'étais en train d'y penser fortement.
Donc j'étais en classe de troisième.
C'était le moment de la date de l'assassinat de Norbert Zongo.
Zongo, on en parlait, quand on venait, ouais. Et puis après le second cycle... Jusqu'en terminale, j'ai été reçu au baccalauréat en 2001. J'ai eu un bac A4. Et là, je me suis apprêté à entrer au grand séminaire. Le cycle philosophique, on commence par le cycle philosophique. Et après le cycle philosophique, c'est le cycle théologique, 5 ans. Et à l'issue de ça, j'ai été ordonné un diacre. Et l'année qui suivait, j'ai été ordonné prêtre le 5 juillet 2008 avec 4 autres confrères pour le compte du diocèse de Koudougou. Voilà.
Votre vocation, elle est née quand vous étiez tout petit déjà au petit séminaire, ou est-ce que c'était un hasard de vous retrouver dans ce petit séminaire?
Alors, je suis né en 80, j'ai été baptisé en 81. Et là, dès 7 ans, en partant à la paroisse, en fait, il y a le service de chœur, les enfants de chœur. avec les pères blancs. En 1992, ils ont été remplacés par les prêtres africains. Et déjà, en servant la messe, en étant servant d'hôtel, en fait, on voulait en fait simplement imiter et être plus tard comme ces gens-là. Donc, ça a commencé par là. Et il y a une structure qui s'occupe de ces personnes qui se sentent appelées pour poursuivre la formation en vue de devenir prêtre. Et je me suis inscrit, voilà, dans le groupe des vocations. Et tout est parti de là. Mmh. Et après avoir été reçu au concours, et voilà.
Parmi vos frères et sœurs, y a-t-il des prêtres?
Oui.
Vous n'êtes pas le seul dans la famille.
L'aîné est prêtre, oui.
L'aîné est déjà prêtre, d'accord.
Oui, Vincent Ouedraogo.
L'aîné des 9 enfants, d'accord.
Voilà, l'aîné des 9 enfants, oui, lui il est prêtre.
Donc c'est une vocation un peu, quand même quelque chose qui couvait dans la famille.
Oui, un peu, mais c'est bizarre. Exceptionnellement, je le dis, même si souvent on n'arrive pas à le comprendre. En fait, je ne le connaissais pas, mon grand frère, en tant que tel. Parce que lui aussi, il a fait le petit séminaire. Après, il a été renvoyé du petit séminaire, réorienté. Bon, on expliquera un peu après. Et il est allé au collège. Et pour aller au collège, au village, il n'y avait pas de collège. Donc, il a été question de négocier avec les proches parents qui sont à Ouagadougou, dans la capitale, pour qu'il puisse aller poursuivre sa scolarité. Et alors, comme il partait pendant l'année scolaire à Ouagadougou, il revenait pendant les vacances. On n'avait vraiment pas l'occasion de se voir comme ça. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui venait à la maison et qui repartait. Pour moi, il n'était même pas un membre de la famille.
Ouais, en fait. Il n'y avait pas de lien.
Il y avait combien d'écart entre vous?
11 ans.
Ah, 11 ans, ça explique cela. Parce que 11 ans pour un enfant de 7 ans, c'est énorme. Ouais.
Et je me suis rendu compte qu'il est vraiment mon frère. Quand je suis allé en 6e au petit séminaire, il a fait son stage au petit séminaire. Il m'a eu comme élève, il m'a enseigné.
Mais c'est là. Il savait que vous étiez son frère.
Oui, mais c'est là que je me suis rendu compte qu'il était vraiment mon frère. Parce qu'il ne me faisait pas de cadeaux. Mais alors, il ne fallait pas que les gens disent qu'il
attendait
de faire le favoritisme.
Éviter,
donc,
ouais.
Là, il me croyait fort. Bon, voilà. Donc, c'est ça.
Ouais.
Et ce qui nous a beaucoup rapprochés aussi, malheureusement, c'est en cette année, c'était la mort du papa.
Il était âgé à ce moment-là?
Le papa, non, 54 ans.
Ah non, il n'était pas vieux.
Voilà, mais l'espérance de vie, ceci explique cela.
Tout à fait.
Et puis bon, voilà. Et là, je me suis rendu compte. Mais là, il ne m'a vraiment pas influencé au niveau de ma vocation. Il m'a toujours laissé libre. Et puis bon, j'ai eu même des tentatives de partir. Il m'a toujours dit, de toute façon, que tu deviennes prêtre ou pas, mais tu restes mon frère, c'est l'essentiel.
Bon. Mais vous étiez doublement son frère.
Bah oui.
Frère en Christ, frère...
Voilà. Et il était aussi devenu mon papa en tant que tel,
et
puisque
oui,
le papa est parti. Il
ah
fallait...
oui. Et lui, il est resté au Burkina?
Oui, il est au Burkina. Il est curé d'une paroisse un peu au nord du diocèse. Voilà.
D'accord. Alors moi, j'aimerais savoir, parce que moi, quand on me dit un garçon au petit séminaire de Koudougou qui se fait renvoyer, ça aiguise ma curiosité.
Le grand frère de Cyprien d'Israël.
Voilà.
Donc, est-ce qu'il peut venir à Montpellier?
Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit renvoyé?
Ben, je ne sais pas. Comme il y a tellement de situations qui font qu'en fait, qu'on réoriente. Mais j'ai eu l'impression qu'en fait, leur classe a dû commettre une bêtise, entre guillemets, et puis il a été question que tout le monde s'en aille.
D'accord.
Bah, ça a été comme ça. Ça arrive souvent, oui.
Bon, ça n'a pas empêché de devenir prêtre à son tour.
Non.
Bien. Bon. Alors, sommes là, 18 ans. Cyprien a 18 ans.
Oui.
Non plus, il a 18 et 5... 23 et plus le séminaire, le cycle théologique. Vous sortez à quel âge du grand séminaire?
Et à 28 ans.
À 28 ans, mais c'est ça, oui. Ouais. Et vous êtes donc prêtre à 28 ans, 29 ans.
Voilà. Et là, j'ai 40 ans. J'aurai 41 ans bientôt, en septembre.
Félicitations.
Merci.
D'accord. Et donc, moi, ce que j'aurais envie de faire une petite digression, pas vraiment digression, mais pour parler justement, parce que là, j'étais interpellée par le fait que Cyprien nous dit que son grand frère aussi était prêtre, parce que moi, ce qui me plaît énormément au Burkina Faso, c'est qu'il y a, bon, il y a une majorité de musulmans, certes, mais il y a quand même après un partage entre les religions, et notamment avec le christianisme. Après, il y a les religions traditionnelles, mais ça, il y a beaucoup de gens le sont en même temps qui sont autre chose, quoi. Mmh. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, il y a des familles où on peut trouver, par exemple, des prêtres, je ne sais pas, mais en tout cas, des catholiques, des musulmans, des gens qui se rebaptisent après. Et il y a une espèce, je trouve, au Burkina, alors, tu vas pas être d'accord avec moi, mais Cyprien, mais je trouve qu'il y a une espèce d'ouverture, par exemple, dans une famille, quelqu'un qui était baptisé catholique, qui avait un prénom catholique et tout ça, ben, à un moment, il peut décider de se faire musulman. Alors, il y a des fois pour les mariages aussi, on fait ça, d'accord, mais quelquefois, c'est pas que pour ça. Et ce que je trouve intéressant là-bas, c'est qu'il y a vraiment une ouverture par rapport aux religions. Et d'ailleurs, la remarque du grand frère, comment il s'appelle le grand frère ?
Vincent.
La remarque de Vincent, elle est tout à fait révélatrice. Moi, elle m'a, pareil, ça, autant deux prêtres dans une famille, bon, ça fait tilt, mais autant me dire à un moment, quoi que tu sois, même si tu n'es pas prêtre, etc., je veux dire, cette ouverture-là, je trouve qu'elle est imagée aussi par cet exemple-là. Alors, je ne sais pas si Cyprien est d'accord avec moi.
Ah oui, je suis parfaitement d'accord, parce qu'en fait, c'est vraiment la grande chance que nous avons au Burkina.
Tout à fait.
Cette coexistence vraiment pacifique. Mmh. Et dans une même famille, vous avez les personnes de toutes les religions. Chacun est libre. Mmh. Et on ne se fait vraiment pas la guerre pour ça.
Non, pas du tout.
Et quand vous parlez, je pense à un ami personnel à moi qui est devenu prêtre. Il est en fait le fils d'un imam. Mmh. En fait, un grand imam et en fait, qui a 8 femmes. Mmh. Et puis, il est devenu prêtre. Mmh. Ça veut dire que chez nous, le problème ne se pose pas pour le moment. Mmh. Et c'est vraiment une grande chance pour nous. Mmh. Et quand vous voyez dans les réseaux sociaux, quand il y a les fêtes musulmanes, les fêtes chrétiennes, tout le monde, voilà.
Oui.
Et vous voyez l'exemple du cardinal Philippe Ouédraogo, à chaque fois qu'il part rencontrer le chef musulman et tout. Vraiment, il n'y a pas de souci à ce niveau.
Et dans les fêtes religieuses, les voisins musulmans, si c'est une fête musulmane, ils viennent apporter, les chrétiens la même chose, etc. Voilà. Et j'avais été frappée dès mon premier séjour, donc il y a quand même plus de 25 ans, j'avais été frappée par le fait que aussi, devant les concessions, enfin devant les maisons familiales, les maisons de famille, il y avait dans la rue, les gens même quelquefois faisaient une, par exemple les chrétiens faisaient une crèche.
Bah voilà.
Voilà, et il y a, je ne sais pas si c'est envisageable dans beaucoup d'autres pays beaucoup plus musulmans, et là voilà, et puis pour tout le monde il y a une évidence vraiment qui est extraordinaire, et ça c'est une des richesses et des particularités du pays, de votre pays.
Voilà, et puis vraiment le dialogue interreligieux est très développé.
Tout à fait.
Surtout à Kourou, en fait, il y a ce qu'on appelle chez nous chaque année, avec l'évêque qui a été porteur du projet, Monseigneur Joachim Ouédraogo, que je salue de passage parce que c'est grâce à lui que je suis là.
Alors, on le salue aussi, grâce à... Merci.
N'est-ce pas?
Monseigneur.
Alors, nous organisons ce qu'on appelle la nuit de l'unité et de la paix. La nuit de l'unité et de la paix.
En fait, Kourou, donc au Burkina en général?
Oui, à Kourou.
À Kourou.
Dans la ville de Kourou.
D'accord.
Alors, c'est quoi la nuit de l'unité et de la paix? Et l'idée est venue d'une chorale dans une paroisse. C'est la dernière paroisse où j'étais avant de venir. Alors, l'idée est née que, vu effectivement les dangers qui se présentent, le terrorisme, le djihadisme, et puis bon, ils ont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une occasion de rencontre de toutes ces confessions? Donc, chaque année, on organise la nuit de l'unité et de la paix.
C'est à quel moment, alors?
C'est au juin et juillet. Et la fois, ça s'est passé cette année en mai, courant mai passé. Et quand j'étais aumônier de cette chorale, en 2019, nous l'avons organisée. C'est vraiment un succès où on invite les chorales protestantes, catholiques, musulmanes, et tout le monde se retrouve au stade populaire de Kourou, en fait, pour célébrer cette fraternité. Et c'est vraiment magnifique. Et au cours de la semaine, en fait, quand je suis arrivé, j'ai eu l'idée qu'on étale ça sur toute une semaine pour que ça ne soit pas le seul jour où il y a le spectacle et tout. Alors, on a organisé et nous sommes allés nettoyer, faire un nettoyage à la grande mosquée de Kourou et à l'église protestante, la grande église. Et au niveau des chefs coutumiers, on le fait. Et on fait une marche au flambeau où tout le monde est invité. Et c'est vraiment magnifique. Mmh. Et cette idée est vraiment géniale.
Alors, quand vous dites unité, qu'est-ce que ça veut dire théologiquement? C'est quoi l'unité pour vous à ce moment-là?
Théologiquement parlant, l'unité, c'est la diversité qui se rencontre, en fait.
Tu vois, c'est extraordinaire.
C'est très difficile à vivre. Je vois en France, peut-être, ou certainement aussi en Afrique, dans certains pays, dans les... On parle de, par exemple, la semaine de l'unité en œcuménisme, au fond, entre chrétiens et catholiques, entre chrétiens, entre protestants, catholiques. Mais en fait, c'est quelque chose qui dure en effet une semaine. Et après, chacun rentre chez soi. C'est une unité, on est obligé de faire une semaine pour dire on est dans l'unité. Mais au fond, concrètement, est-ce qu'on est vraiment dans l'unité après?
Oui, cette semaine, en fait, c'est juste pour nous rappeler. Voilà. Et qu'il ne faut pas oublier.
D'accord.
Alors, mais c'est vrai que le contexte est très différent. Ce qu'on disait, c'est que quand même, là-bas, il y a une ouverture interreligieuse, puisque dans une même famille, voilà.
C'est ça. Donc, moi, j'entends unité chrétienne et paix interreligieuse. C'est comme ça qu'il faut l'entendre, cette phrase.
Nous faisons les deux, en fait.
Les deux en même temps.
Vous êtes très ambitieux.
Nous ratissons.
Non, mais on a peur de rien. Hein.
Nous ratissons large. Hein. Donc,
Bravo. Voilà.
Très bien. Ça me va.
Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant, la discussion, parce que justement, moi qui connais quand même assez bien le pays, je dois dire que moi, ça m'interpelle pas de la même façon.
C'est ça.
Sauf que voilà, là, on est quand même dans deux cultures différentes et on voit bien comment ça peut être.
Même au-delà des cultures, parce que j'oublie quand même pas l'atrocité qu'il y a eu au Burkina. Oui. Au Burkina la semaine dernière.
Oui.
C'est quand même un problème religieux. Ou est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous l'analysez autrement? Au-delà du religieux.
En fait, on voudrait politiser plus ou moins la chose, on veut récupérer ça autrement. Et puis je crois que par la grâce de Dieu, cela ne va pas arriver, on ne peut pas récupérer les choses. Parce que en fait, c'est beaucoup plus facile quand on met les gens en confrontation, en s'appuyant sur cet aspect du religieux et tout. Ouais. Et c'est très délicat. Et quand c'est parti, c'est pas bien.
C'est ça.
Voilà. Donc moi, je pense que pour le moment, il faudrait qu'on exclue et qu'on essaie au maximum de limiter, en fait, cette capacité de ces gens mal intentionnés à vouloir récupérer la chose dans ce sens. Et c'est tout le travail que nous sommes en train
allusion,
de faire.
Peut-être on peut le rappeler parce que cette émission sera diffusée et rediffusée tellement on va l'aimer. Mais donc, du coup, là, il faut bien dire qu'on est au mois de juin et c'était en début juin où il y a eu un attentat, des morts, il y a eu des affrontements. On va dire lié au djihadisme, au nord du pays, au nord du Burkina.
En fait, on sait bien que c'est pas vraiment religieux.
Jusque là, je n'y crois vraiment pas.
Non, mais la thèse qui est retenue, plutôt que on finance des jeunes, il y a un désespoir économique, etc. Les jeunes, on les finance et à un moment, ils deviennent sauvages un peu. Et c'est là où ils rejoignent peut-être quelquefois notre jeunesse à nous d'ailleurs, qui peut-être elle a eu trop et qu'il est complètement, qu'il y a un moment est complètement déconnecté de l'empathie, de la spiritualité, etc. Et là, à ce moment-là, ils deviennent aussi comme ça là-bas.
Ils donnent des gifles à Macron.
C'est vrai. Par exemple. Je veux dire, à un moment, pourquoi pas, bien sûr.
Je ne sais pas qui l'a donné, d'ailleurs.
C'est normal.
Donc,
je crois que c'est là, des faits où après... apparemment, des analyses qui sont faites, c'est pas du tout... C'est des jeunes qu'on... Moi, j'avais reçu une vidéo, d'ailleurs, aussi... privé qui a circulé là-bas, c'est des jeunes qu'on finance, on leur donne de l'argent, les armes et puis ils demandent pas qu'il y ait catholique, qu'il y ait protestant, qu'il y ait musulman, pas du tout.
Et la situation vraiment socio-politique et économique s'y prête vraiment Et puis il faut se dire, mais quand on veut effectivement instrumentaliser, le Nord, c'est beaucoup plus musulman.
Tout à fait.
C'est ça qui fait n'empêche que quand même dans le diocèse de Dori, il y a quand même des chrétiens catholiques et puis il y a des chrétiens protestants et tout. Moi, je pense qu'en fait, quand je dis que c'est la situation socio-politique et économique qui donne ça, en fait, nous avons une manière de fonctionner qui ne devait pas être comme ça. C'est vrai, je suis pour la démocratie, mais chaque démocratie devrait quand même se trouver les voies et moyens, sans s'écarter de la démocratie générale, pouvoir s'organiser à l'interne pour que les choses aillent bien.
Vous voulez dire que c'est le pays qui n'est pas prêt pour une démocratie telle qu'on peut la vivre ici comment
que le pays n'est pas prêt, c'est trop dit. Non, mais je ne le dis pas, mais le pays est prêt. Mais comment adapter cette démocratie, en fait, toi? Parce que quand on parle de démocratie, il y a les partis politiques qui se créent. Déjà, ce sont des fractions. Il y a une certaine division qui est là. Et chaque parti politique essaie de conquérir le pouvoir et de le gérer à sa manière. Et il faut qu'on se rappelle qu'un parti politique n'est autre qu'une association de personnes. Et en allant conquérir le pouvoir pour le gérer, en fait, c'est vrai qu'on dit, en fait, c'est pour le bien général. Mais alors, on s'occupe d'abord du bien particulier, de ses associés. C'est comme toute association, si c'est pas... voilà. Mais ça fait qu'en réalité, si le problème de la sécurité, prenons ce problème en particulier, si effectivement, ce n'était pas un parti politique qui était au pouvoir et qui essayait de gérer la situation avec des non-dits, souvent des agendas cachés, ils sont souvent contraints. Et je comprends, je ne leur en veux pas pour ça. Ça devient difficile. Pour moi, il faudrait bien s'asseoir pour essayer de voir comment nous pouvons réinventer cette démocratie pour que ça marche. Je suis en train de faire un écrit, je ne vais pas dévoiler ça ici.
On en a les premières paroles. Hein?
Ben oui, ben,
merci,
ouais, ouais.
Cyprien.
Mais je suis en train de faire la réflexion pour que les choses puissent changer.
Ouais. Voilà. Et c'est vrai que souvent, récemment, on l'a vu d'ailleurs, il y a souvent les chefs religieux et les chefs coutumiers, et même le Mourondabad par moment, qui se réunissent justement pour, comme une, à la fois peut-être une cellule de crise, mais surtout une manière de diffuser une exhortation à la paix, à la solidarité, etc. On le voit relativement souvent, et c'est très souvent interreligieux. Il y a, comme disait tout à l'heure Cyprien, c'est souvent interreligieux.
Oui, on ne dissocie pas le pouvoir... Ouais. Spirituel et le pouvoir temporel.
Oui, on dissocie, mais il faut les concilier souvent pour que ça marche.
Ouais, tout à fait.
Et ce que, en fait, en réalité, ce que les autorités coutumières, religieuses essaient de construire, en fait, souvent, les partis politiques, en fait, dispersent cela, en fait. C'est difficile. Bon, chez nous, ils ont créé un ministère pour la réconciliation nationale. Oui. Si j'avais mon mot à dire, j'ai dit c'est bien. Mais en fait, ce n'est pas un ministère. Et de manière dans la vision moderne des choses qui peut réconcilier les cœurs, ce n'est pas possible. Il y a ce qu'il peut faire, mais en attendant, il y a un travail de fond qu'il faudrait faire. Parce que la réconciliation passe par quoi? Il faut tenir compte de la famille nucléaire. Si effectivement il y a eu offense, il faut voir la famille nucléaire pour demander effectivement, il y a eu cette offense. Nous demandons pardon. Est-ce que vous êtes d'accord? La famille nucléaire ne s'appartient pas. Elle va se référer à tout le village. Le village va se référer à l'ethnie. Et dans cette réalité, il faudrait aussi se rendre compte que, en fait, dans ces composantes de la famille nucléaire, du village et de l'ethnie, il y a cette appartenance religieuse. Les gens appartiennent à la religion chrétienne, ou catholique ou protestante, à la tradition, à la religion traditionnelle ou à la religion musulmane. Donc, il faut au niveau religieux réunir encore toutes ces composantes pour négocier. C'est après qu'au niveau de l'État, on peut porter la chose. Mais vous voyez, quand
il y a du temps là, il y a du temps qui peut se dérouler.
Ouais. Mais ça peut aller très vite si effectivement les gens sont impliqués. Voilà. Et comme je le dis, les gens sont toujours prêts. S'ils comprennent, ils y adhèrent. Mais s'ils sentent qu'en fait il y a de la fausseté quelque part, ça devient difficile. Et le politique est toujours dans le... Bon, je n'ose pas employer le mot.
Si, il faut oser. Il faut oser, Cyprien.
Alors, le temps passe, chers amis, c'est fort intéressant. Donc, nous étions, vous, Cyprien Ouédraogo, nous sommes encore au Burkina.
Oui.
Et aujourd'hui, vous êtes là. Alors, comment ça s'est passé entre le Burkina et Montpellier?
Et pourquoi,
oui. C'est intéressant. Quand j'ai été ordonné prêtre, j'ai été envoyé dans une paroisse au nord. J'ai exercé le ministère pastoral 2 années. Après, on m'a envoyé au sud. J'ai exercé mon ministère durant 5 années. Et là, la particularité, quand je suis allé, chez nous, la jeunesse est beaucoup... Il y a beaucoup plus de jeunes.
Qu'ici, vous voulez dire?
Ah oui, oui. Ouais.
Dans les églises ou même dans la société?
Oui, dans la société, oui. Nous sommes une population jeune.
C'est sûr.
Voilà. Et Monseigneur l'évêque, il est arrivé, il a dit, mais c'est une grande chance pour nous. Parce qu'il faut éduquer. Mais dans la région, il n'y avait pas en réalité une représentation au niveau de l'enseignement catholique. Et la grande force du Burkina, en fait, c'est encore la présence de l'enseignement catholique. Qu'on le veuille ou non.
Ouh, ça a construit énormément
ouais,
de...
Oui, ouais, tout a commencé par là.
Non,
voilà.
Ouais.
Et actuellement, c'est la référence, en fait. Voilà.
Référence sur le continent africain ou...
Ah non,
Burkina. La référence de l'enseignement.
De l'enseignement.
De l'enseignement, c'est une référence.
Ce sont les meilleurs
écoles. On est formé dans une école catholique, on est bon.
On est bon.
On est bon.
Ça, oui.
Ça, c'est vrai, je confirme vraiment.
Mais voilà. C'est privé alors, il faut que les parents payent.
Oui, et au départ, c'était les missionnaires, et puis peu à peu, après, c'est resté.
Alors donc, du coup, ce n'est pas une éducation prise en charge par l'État.
Oui.
Rien n'est pris en charge par l'État.
Bon. Si, l'État prend en charge quelque part. Il y a une convention avec l'État. L'enseignement catholique a une convention avec l'État et l'État soutient. Même si, toujours, c'est la même chose dans les pays africains. Alors, pour cette année, il faut attendre 2 ans pour que l'État puisse reverser ce qu'il devait il y a 2 ans. C'est très compliqué. Mais quand même, l'État fait beaucoup d'efforts parce qu'il sait que, en fait, l'enseignement catholique fournit. Voilà. Et si vous partez, les cadres, les grands cadres entre griffes, en fait, beaucoup sont issus, en fait, de ces écoles.
Moi, tous mes amis, que ce soit des médecins, des juristes, tout ça, ils sont tous faits, même s'ils sont musulmans, même s'ils sont musulmans.
Voilà. Ils font l'enseignement catholique.
Tous fait l'enseignement catholique.
L'enseignement catholique. Il y a les protestants qui font aussi un très beau travail. Quand vous parlez...
Vous avez intérêt à le dire.
Ah non, j'ai oublié, oui, mais ouais, non. Non, je n'y pensais pas forcément. Ah non, vous me rappelez.
Oui,
parce que quand vous parlez du collège de Lumbi, là, c'est vraiment... Voilà. Et moi, je pense que c'est beaucoup intéressant. Et pour la petite, quand j'étais à Léo, on a essayé de fonder les établissements catholiques. On a créé un collège, voilà. Et il y a un privé. Chez nous, le privé n'est pas forcément catholique ou protestant. Il y a des particuliers qui ont des écoles privées. Et il y a un particulier qui avait son établissement qui n'arrivait pas à gérer. Et il m'a demandé de tout faire pour que cet établissement soit d'obédience, en fait,
catholique.
Et j'y ai travaillé. On a créé le collège. Et puis, bon, voilà. Et
Juste une parenthèse.
C'était une parenthèse.
On va finir l'émission. Vous allez nous raconter pourquoi, comment vous êtes arrivé à Montpellier.
Et de là, j'ai été nommé après dans une autre paroisse. Et en 2018, je suis arrivé à Koudougou même, dans le centre-ville, dans une paroisse. Et l'année qui suivait, j'ai été nommé aumônier universitaire des écoles et instituts privés supérieurs et des cadres sociaux de Koudougou. Et quand je suis arrivé, à Koudougou, j'ai senti effectivement la vie, comment ça bouge, les universitaires, les écoliers et tout. Mais j'ai senti qu'il y avait quand même une difficulté avec l'expérience que j'ai reçue aussi dans les villages et tout. Je trouve que nous avons perdu beaucoup de valeurs et les gens sont plus ou moins perdus. Les gens ne savent plus, en fait, d'où nous venons, où nous sommes en réalité, où est-ce qu'on va. Et j'ai dit à mon Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir davantage pour essayer d'aider l'État, effectivement, au niveau de l'éducation, de la formation et tout. Et c'est là, l'idée est née, je dis, mais on va essayer de monter un projet pour la mise en place d'un centre d'études et de recherche en identité africaine. Il nous faut savoir qui nous sommes, d'où nous venons, où nous en sommes, où est-ce que nous partons.
Ça, c'est la sagesse africaine qui parle. Retour à la sagesse africaine.
Et moi, en fait, quand on voit les populations, la jeunesse se lève, on dit qu'il y a, qui nourrissent en fait des sentiments anti-colonisateurs.
Oui, disons-le. Oui,
disons-le comme ça. Et particulièrement anti-français, ça me fait mal. Et moi, je me suis toujours dit, il ne faut pas rester dans le ressenti, ça ne sert à rien. Actuellement, il ne faut pas être là. Moi, je me suis dit, il faut toujours prendre la chose là sur soi. Il y a eu l'esclavage, personne ne nie ça. C'est normal, c'est pas bien. Il y a eu la colonisation, bien qu'on dise qu'en réalité, la colonisation n'a pas simplement que des aspects négatifs. C'est un faux problème. Si je suis là en train de parler français, c'est grâce à la colonisation. Et Léopold Sédar Senghor a dit, n'en déplaise à ceux qui les détracteurs, la colonisation était un mal nécessaire. Il faut bien le comprendre et avoir l'esprit assez pertinent pour pouvoir juger. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Bref. Après cette colonisation, il y a eu quoi? Il y a le néocolonialisme. En fait, les responsabilités sont partagées en fait, entre les colonisés et le colonisateur. Bon, alors parce qu'en fait, après le départ du colonisateur, et les colonisés n'ont pas su en fait gérer la situation.
Cyprien.
Oui.
Je vais me retourner vers.
Bon, Cyprien, il faut absolument qu'il revienne la semaine prochaine parce
donc
que là, moi, j'en
prochaine.
Peux plus là, hein, parce qu'il nous a pas tout dit.
C'est ça.
Déjà. Et oui, ça va vite.
On va écouter la musique que nous a proposée Marie-Claude.
Voilà.
Ou vous,
bah,
Cyprien.
C'est moi qui choisis parce que Cyprien m'a dit que je connais pas. Bon.
Donc, je connais, mais je n'osais pas. Hein.
Voilà.
Non, mais oui. La question, donc, vous n'êtes pas là en tant que prêtre en France, si?
Mais en tant que prêtre, moi...
Oui, quand même.
Il va nous l'expliquer la semaine prochaine.
Il nous l'expliquer la semaine prochaine, vous savez. Oui.
Mais vous n'allez pas dire que l'émission est terminée comme ça pour nous.
Si.
C'est bien ça.
On a tout de suite la semaine prochaine après nous.
Donc on va écouter.
Au revoir, Cyprien.
On va dire au revoir, Cyprien.
Ah là là là,
merci, William. Et donc on écoute Salif Keïta, Africa.
Africa, on est dans le thème.
Visa te sorona, bakewala ye, ye wala mandela.